Bonjour à tous. Je suis sûr que la plupart d'entre nous, ou du moins bon nombre d'entre nous, ont lu ou connaissent, à tout le moins, la brochure intitulée Les 7 lois du succès. Si vous ne l'avez pas lue ou si vous ne la connaissiez pas, je vous invite à découvrir cet ouvrage remarquable. Parmi les nombreux aspects marquants de cette brochure, il y en a un en particulier, elle présente 7 lois. Et non une seule. Il ne s'intitule pas la seule loi du succès. On peut donc supposer sans risque que chacune de ces lois, prises isolément, ne suffira pas à nous apporter le succès que Dieu souhaite pour nous. Et cela est d'ailleurs démontré avec force dans ce livret. Mon message d'aujourd'hui porte sur quelque chose qui va au-delà de cela. J'ai pris conscience de quelque chose en parcourant ces 7 lois. Et l'une d'entre elles m'a particulièrement frappé. Je souhaite la partager avec vous. Nous y reviendrons dans un instant. Mais avant cela, je vais vous donner quelques éléments de contexte. Je voudrais en parler un peu. Pour réussir, M. Pack souligne l'importance, en premier lieu, de se fixer le bon objectif. Si vous n'avez pas le bon objectif, qui guide votre direction, vous vous exposez à l'échec. Il est donc important de vous fixer le bon objectif. Il poursuit en disant que nous devons nous former. Nous devons rester en bonne santé. Nous devons rester motivés pour atteindre cet objectif. Et lorsque les choses ne se passent pas exactement comme prévu, nous devons faire preuve d'ingéniosité. C'est la cinquième loi. Personne ne contestera que ces qualités sont toutes essentielles pour réussir dans la vie. Cela ne fait aucun doute. Qui pourrait le contester? Monsieur Pack explique en outre que le véritable succès tel qu'il est présenté comme l'élément clé de la brochure, ne peut être atteint qu'en suivant la loi qui consiste à rester en contact avec Dieu, à rechercher ses conseils et à recevoir continuellement son aide. C'est une loi longue, mais elle résume ce qui est nécessaire pour connaître le véritable succès, par opposition à la version du succès telle que la conçoit le monde. Frères et sœurs, c'est cela qui mène au véritable succès. Mais je me rends également compte d'une chose. Beaucoup, dans l'Église de Dieu, commencent bien. Ils se fixent les bons objectifs. Je me suis fixé le bon objectif. Vous vous êtes fixé le bon objectif. Mais ceux qui sont partis finissent par les abandonner. Il y a ceux qui, autrefois, cherchaient sincèrement Dieu. Personne ne doutait qu'ils cherchaient Dieu. Mais finalement, petit à petit, ils ont perdu de plus en plus de l'esprit de Dieu, et au fil des millénaires, certains l'ont perdu complètement. Combien d'entre vous ont vu des personnes se présenter pour la première fois avec un grand zèle pour vivre selon le mode de vie de Dieu? C'est puissant. J'apprécie quand une nouvelle personne arrive à l'Église. Je vois leur zèle, leur empressement à servir de toutes les manières possibles, et à servir Dieu en fin de compte. C'est un véritable coup de pouce pour les congrégations locales quand de nouvelles personnes arrivent. Et je pense que Dieu l'a voulu ainsi. Il travaille extrêmement dur. Mais ensuite, nous avons également vu ces mêmes personnes, certaines d'entre elles, quelques-unes, s'épuiser elles aussi. Je connais des gens qui menaient autrefois une vie très saine, mais qui, avec le temps, ont commencé à développer des habitudes malsaines qui leur causent des problèmes physiques. Je connais des personnes qui, autrefois dans l'Église, faisait preuve d'une ingéniosité exceptionnelle, qui était autrefois flexible, très flexible et adaptable, capable de s'adapter aux changements qui se produisaient dans leur vie. Pas des changements doctrinaux, certainement pas. Peut-être des changements dans notre compréhension prophétique. Elles n'ont pas fait preuve de force lorsqu'elles sont parties. Elles sont lentement devenues rigides, non flexibles. Elles ne sont pas devenues fortes, bien qu'elles puissent vous dire le contraire, Elles sont devenues fragiles et ont fini par se briser. Maintenant, mes frères, bien que chacune de ces six lois apporte une part de succès, elles ne garantissent pas le succès ultime d'une personne, le salut, l'entrée dans le royaume de Dieu. Devenir un être divin éternel, la vie éternelle, pas même le contact avec la guidance et l'aide continue de Dieu, en soi, ne peut garantir la vie éternelle. Seule la septième loi garantit que vous et moi entrerons dans le royaume de Dieu. Seule la septième loi sur le salut, la vie éternelle, et Jésus l'a expliqué clairement. C'est ce qui m'a frappé. Passons à Matthieu 24 pour commencer. Matthieu 24. Nous allons simplement lire une très courte déclaration des. Jésus a dit, au verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Maintenant, considérez ce que Christ n'a pas dit. Il n'a pas dit, celui qui se fixe le bon objectif sera sauvé. Il n'a pas dit, celui qui cherche Dieu pendant des jours, des mois et des années sera sauvé. Et celui qui étudie beaucoup la Bible sera sauvé. Non. En voici une autre. Il n'a pas dit, celui qui travaille dur sera sauvé. Celui qui sait encaisser les coups et toutes les épreuves que la vie peut lui infliger sera sauvé. Il n'a pas dit cela non plus. Tout, absolument tout, repose sur cette seule phrase, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. Ce mot grec, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, est hupomeno. Hupomeno. Il existe un mot issu du vieux français qui rend parfaitement compte de ce que Christ décrit, et il se compose de deux parties, per, qui signifie à travers, et sévère. J'espère avoir bien prononcé cela. Nos frères français sont probablement en train de glousser en ce moment, je les entends. Et sévère signifie difficulté, épreuve, rigueur ou pression. Si on met les deux mots ensemble, cela signifie traverser des difficultés, traverser des épreuves, rester sous pression. Cela vient du mot français persévérer. Vous savez tous de quoi je parle. Laissez-moi vous poser une question, comme je me la pose et me la lance souvent à moi-même, mais particulièrement pendant les jours des pains sans levain, dans la période précédant la Pâque. Une introspection pré-pascale. Christ vous décrit-il? Christ me décrit-il? Nous nous sommes fixés le bon objectif. Mais allons-nous poursuivre cet objectif pendant tous les jours ou tout le temps qu'il nous reste, que ce soit des mois ou des années? Ceux qui sont partis il y a des millénaires s'étaient fixés le bon objectif. C'est ce que signifie fin ici. Il nous dit de nous mettre en route vers un but précis. Ceux qui persévéreront jusqu'au but seront sauvés. Mais pour diverses raisons, ils n'ont pas persévéré. Ils ont conclu que le prix à payer était trop élevé et que la promesse était trop lointaine. Pourquoi pensez-vous, frères, que la société a développé cette mentalité de gratification instantanée? Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Satan sait ce que Christ a dit, persévérer jusqu'à la fin. Les parents veulent des trophées de participation pour leurs enfants. Je crois qu'ils soutiennent cela pour une raison sous-jacente. Eux-mêmes veulent un trophée de participation dans la vie. C'est cela, le christianisme mondain. Si je me contente de participer, Dieu me donnera la récompense. Cela ne fonctionne tout simplement pas ainsi. Dieu ne récompense que par une couronne d'achèvement, pas par un trophée de participation. Encore une fois, réfléchissez à ces jours de pain sans levain. Que signifie-t-il? Le défi est de savoir si nous allons garder le levain à l'écart, garder le péché hors de nos vies une fois que nous l'avons éliminé. Revenons à la loi du succès. Nous cherchons Dieu. Il n'y a pas une seule personne dans cette salle sur laquelle je pose les yeux dont je ne crois pas qu'elle cherche Dieu. Je crois que nous cherchons tous Dieu. Mais nous éloignons-nous de lui dans l'adversité? L'oublions-nous dans les moments de prospérité? Au début, nous sommes avides d'apprendre. Comme je l'ai dit, c'est formidable de voir de nouveaux visages arriver à l'Église. Cette soif d'apprendre, j'étais moi-même avide d'apprendre. Mais finissons-nous par nous désintéresser au fil du temps, en entendant encore et encore les mêmes vérités enseignées et les mêmes doctrines répétées? Nous voulons être en bonne santé, mais sommes-nous prêts à vivre sainement chaque jour? Et demain? Et chaque jour de notre vie? Un jour à la fois, en vivant sainement. Comprenons-nous que la motivation n'est pas un sursaut d'énergie occasionnel, mais un effort soutenu jusqu'à ce que l'objectif soit atteint? Resterons-nous débrouillards, flexibles lorsque les plans changent, si des portes se ferment dans notre vie, ou si les circonstances évoluent de manière inattendue dans notre mariage, avec nos enfants, au travail, à l'école? Serons-nous débrouillards? Serons-nous capables de nous adapter? Ou serons-nous comme l'eau qui choisit toujours le chemin de la moindre résistance? Comme l'explique M. Bach, ces lois ne suffisent pas à elles seules à garantir la victoire et le véritable succès. Ces six lois n'ont d'importance que si elles sont maintenues jusqu'au boutique et elles ne sont maintenues que par une seule loi, la plus importante de toutes, la loi de la persévérance. La persévérance que la Bible enseigne, mes frères, nous aidera à surmonter toutes les difficultés que la vie peut nous apporter, quel que soit le domaine dont je parle ou que vous puissiez imaginer. Elle nous aidera à surmonter toutes les difficultés jusqu'à la fin, jusqu'à la vie éternelle, jusqu'au but, jusqu'au salut. Alors, à quoi ressemble la persévérance dans la vie réelle? À quoi ressemble-t-elle lorsque nous sommes traités injustement, parfois par ceux qui nous sont les plus proches? À quoi ressemble la persévérance lorsque nous sommes tentés ou mis à l'épreuve, retardés ou sous pression, que nous soyons jeunes, vieux ou entre les deux? Dieu ne nous laisse pas dans le doute. En fait, la Bible regorge d'hommes et de femmes réels qui font face à des épreuves, à des difficultés, au découragement, à des retards, voire à la souffrance, et pourtant ils ont persévéré jusqu'à la fin. Genèse 37. Les Écritures regorgent d'exemples, mes frères, qui nous enseignent des leçons sur la persévérance. Aujourd'hui, nous allons en examiner des centaines. Oui, des centaines. Il y a des milliers d'exemples dans la Bible. Quoi? Des milliers. Oui, des milliers. Mais le temps ne me permet d'en aborder que quelques centaines. Alors commençons. Je pourrais aussi me concentrer sur ceux qui ont échoué, mais je ne le ferai pas. Je vais m'en tenir au vainqueur. Commençons par l'un des exemples les plus clairs et les plus puissants. Je veux que vous remarquiez le schéma de Dieu et la manière dont il commence à œuvrer avec ses serviteurs. Des vies différentes, des circonstances différentes, mais le même point de départ. Commençons par Joseph. Verset 5. Genèse 37, verset 5. Laissez-moi vous y emmener. Et Joseph fit un rêve, et il le raconta à ses frères, et ceux-ci le haïssèrent encore davantage. Verset 6. Et il leur dit, écoutez, vous n'allez pas croire ce que je viens de rêver, le petit Joseph, le jeune Joseph. Car voici, je ne sais même pas s'il leur a laissé le temps de dire, hey, « Hé, Joseph, cela ne nous intéresse pas. » Il s'est juste lancé dans son récit. Car voici, nous lions des gerbes dans les champs, et voici, je ne sais pas si c'est de l'excitation, je l'imite peut-être mal, mais je vais continuer quand même. Et il leur dit, car voici, nous lions des gerbes dans les champs, et voici, ma gerbe s'éleva et se tint debout. Et voici, Vos gerbes se tinrent tout autour et se prosternèrent devant ma gerbe. Et il fit encore un autre rêve au verset 9. Et il le raconta à ses frères. Encore une fois, on dirait qu'il n'a pas pris le temps de réfléchir ni tirer les leçons du premier, de la réaction qu'il avait suscitée, car il est dit qu'il le haïssait encore plus. Eh bien, maintenant, ils sont sur le point de l'envier. Il dit, « Voici, j'ai fait un autre rêve. Et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Joseph, Joseph, Joseph. » Son parcours, qui a commencé dès son plus jeune âge, et nous y reviendrons dans un instant. Jeunes gens, je veux que vous restiez avec moi sur ce point. Deux des trois serviteurs que je vais d'abord mentionner ici, avant de passer aux centaines, ont commencé très jeunes. Joseph est un exemple de persévérance. Et voici la première leçon que Joseph peut nous enseigner. Pour persévérer, tout comme dans le livre, il faut un objectif à atteindre. Il doit y en avoir un rêve à réaliser ou une récompense à recevoir. Vous ne pouvez pas persévérer ni apprendre à persévérer si vous n'avez pas d'objectif devant vous, le rêve que vous voulez réaliser, la récompense que vous voulez obtenir. Dieu a révélé à Joseph son plan, servir ses frères, bien qu'il ne s'en rende compte que plus tard, non pas simplement régner sur eux, mais les servir, non pas une fois, mais deux fois. Dieu le leur a révélé à deux reprises. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est intéressant. Parfois, nous avons besoin qu'on nous rappelle nos rêves. Peut-être que ce message est l'une de ces occasions pour moi et pour vous tous. Et ce n'étaient pas des rêves ordinaires. Savez-vous ce qui rend l'histoire de persévérance de Joseph si spéciale? C'est qu'elle a commencé par le rêve de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné ce rêve. Joseph n'a pas imaginé ce rêve lui-même. Il n'y a rien de mal à imaginer nos propres rêves, nos propres aspirations. Mais les plus grands rêves à poursuivre dans nos vies sont ceux que Dieu nous donne. Je peux rêver de réussite, d'une carrière, d'une épouse et d'une famille. Il n'y a rien de mal à ces rêves. En fait, certains de ces rêves s'alignent parfaitement sur la volonté de Dieu pour nous tous. Mais il y a des rêves et des aspirations que nous pouvons avoir et que Dieu nous permet de choisir dans notre vie, mais les plus grands rêves à poursuivre dans nos vies sont ceux que Dieu nous donne. Or, Joseph n'avait aucune idée de la manière dont ce rêve allait se réaliser. Il avait simplement fait un rêve. Il devait simplement croire qu'il était vrai. Frères et sœurs, nous devons croire que la vie éternelle est juste devant nous. Que l'appartenance à la famille éternelle de Dieu est un but que Dieu vous a donné, m'a donné, nous a donné à tous. Et je crois en ce rêve. Et je suis sûr que chacun d'entre vous croit en ce rêve, lui aussi. Je ne sais pas comment Dieu va m'aider à réaliser mon entrée dans le royaume. Je ne peux pas vous dire ce qu'il va faire au quotidien, ce qui va m'arriver, mais deux choses sont certaines. Premièrement, ce rêve est clair. Je sais quel est mon objectif. Je sais quel est le rêve de Dieu pour moi. Un jour, j'occuperai une position de pouvoir pour aider ma famille, mes parents, mes frères, leur famille, ma postérité, mes ancêtres. Vous avez le même rêve, occuper un jour une position de pouvoir pour servir et aider vos familles, tout comme Joseph l'a fait. C'est votre rêve. Il est similaire au mien. Et je sais, deuxièmement, que si nous persévérons, le rêve de Dieu leur sera également donné. Passons à Josué. Revenons sur ce point, nous devons avoir un rêve ou un objectif. Choisissez n'importe quel grand personnage biblique et vous verrez que Dieu leur a donné un rêve à poursuivre, un objectif à atteindre, une récompense à obtenir. Josué ne fait pas exception. Josué, chapitre 1, Verset 1. Or, après la mort de Moïse, il arriva que le Seigneur parla à Josué, fils de Nun, ministre de Moïse, terme intéressant ici. Serviteur de Moïse, c'est instructif. En disant, Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi donc, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que la plante de ton pied foulera, je te l'ai donné, comme je l'ai dit à Moïse, puis Dieu définit plusieurs limites, les limites du verset 4. Verset 5. Nul ne pourra te résister tous les jours de ta vie. Or, Josué est différent de Joseph. Il n'a pas commencé par un rêve. Dieu lui a parlé directement. Il lui a donné cela sous la forme d'un ordre. Et cet ordre allait le conduire à une grande récompense. Tout lieu que la plante de ton pied foulera, je te l'ai donné. Pour la première fois, Josué, pensez-y, n'entendait plus la voix de Dieu par l'intermédiaire de Moïse. Son objectif, sa récompense, lui venait sous la forme d'une instruction directe de Dieu. Et ce qui rend cet objectif spécial, c'est que Josué ne le recherchait pas. Il aurait pu. Son parcours était solide, mais il n'a pas fait campagne pour obtenir ce poste. Même s'il avait de nombreuses années d'expérience, il ne s'est pas nommé lui-même. C'est Dieu qui lui a confié cette responsabilité, et nous verrons pourquoi plus tard. Et considérez l'ampleur de ce que Dieu a confié à Josué. Conduire tout un peuple en territoire inconnu pour affronter de puissants ennemis qui voulaient le détruire complètement. Une tâche tout à fait banale que Dieu confie à quelqu'un. Ces pensées devaient être difficiles à imaginer pour Josué. On pourrait facilement imaginer Moïse le faire, mais s'imaginer soi-même, m'imaginer régner sur des villes et des nations, c'est parfois encore plus difficile, mes frères. C'est difficile à concevoir. Si c'est le cas, n'est-il pas difficile pour vous d'imaginer diriger des millions, voire des milliards de personnes à travers des villes, des territoires, des nations et le royaume? Ce n'était pas une mince affaire. Savez-vous ce qu'il fallait pour y parvenir? De la persévérance. Mais cela n'aurait pas nécessité de persévérance si cet objectif ne lui avait pas été confié. Notre objectif est bien plus grand que celui de Josué. Pensez-y. Il persévérait pour des récompenses matérielles. Certes, il obtiendra aussi sa récompense spirituelle, mais nous devons persévérer pour saisir une récompense que l'œil n'a pas vue, que l'oreille n'a pas entendue, et qui n'est pas montée au cœur de l'homme. C'est à ce point que Dieu a rendu grand notre objectif, notre récompense, notre mission, mais pas seulement pour Joseph et Josué. Rappelez-vous, pour persévérer, il faut un but à atteindre, un rêve à réaliser ou une récompense à recevoir. Passons au premier livre de Samuel, chapitre 16, pour un autre exemple, un troisième exemple. Je n'ai pas besoin d'aller bien loin. 1 Samuel 16. Au verset 1, l'Éternel dit à Samuel, « Combien de temps pleureras-tu sur Saül, alors que je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël ? Remplis ta corne d'huile, et va. Je t'envoie chez Jessé, le Bethléemite, car je me suis choisi un roi parmi ses fils. » Verset 4. Et Samuel fit ce que le Seigneur avait dit, et il vint à Bethléem. Et les anciens de la ville tremblèrent à son arrivée, et dirent, « Viens-tu en paix, ou y a-t-il autre chose que nous devrions savoir ? Tant que je peux courir plus vite que les messieurs à ma gauche et à ma droite, je pense que tout ira bien. » C'est un peu ce qu'il disait à ce moment-là. Et il dit, « Je viens en paix, je suis venu pour offrir un sacrifice au Seigneur. Sanctifiez-vous et venez avec moi pour le sacrifice. » Et il sanctifia Jessé et ses fils, et les appela pour le sacrifice. Et il arriva, lorsqu'ils furent venus, qu'il regarda Éliab, Continuez la lecture ici. Abinadab et Shamash. Maintenant, réfléchissez à ces trois noms. Je pense qu'il était à court de noms originaux, car lorsqu'il en est arrivé au dernier, c'était David. Nous avons donc Eliab, voici mon fils Eliab, non, Abinadab, et Shamash. Y en a-t-il d'autres? Car Dieu dit que ce n'est aucun d'entre eux. Et de nouveau, José fit passer sept de ses fils, verset 10. Devant Samuel, et Samuel dit à José, le Seigneur n'a pas choisi cela. Et Samuel dit à José, est-ce là tous tes enfants? Et il répondit, il reste le plus jeune, et voici, il garde les brebis. Nous avons un berger, un peu le mouton de la famille. Il est beau, mais c'est un berger, après tout. Je peux aller le chercher. Et Samuel dit à José, envoie le chercher, car nous ne nous mettrons pas à table avant qu'il ne soit ici. Et il l'envoya chercher et le fit venir. Or, il était rougissant, avait un beau visage et une belle apparence. Et le Seigneur dit, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Qui? Le roi d'Israël. Et il fut un roi d'Israël. Jeune Jean, il était alors adolescent. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Ce n'était pas une hypothèse, non, c'était une certitude. C'est le prophète de Dieu qui est venu dans votre ville et qui vous dit, c'est toi l'élu. Tu es un roi d'Israël. Or, les débuts de David sont différents de ceux des deux précédents, mais le schéma est le même. Dieu lui a donné une onction. Il a donné un rêve à Joseph, un ordre à Josué, et une onction à David. Mais tous les trois ont reçu le rêve de Dieu pour chacun d'entre eux. Dieu ne lui a pas donné un rêve vers lequel tendre ni un ordre direct à suivre. Ce qui rend le parcours de persévérance de David si particulier, c'est que Dieu l'a choisi, l'a identifié et l'a oint. Dieu a vu en David quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. David a déjoué les attentes du prophète de Dieu, de son père et de ses frères aînés. Continuons au verset 13. Samuel prit alors la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères, et l'Esprit du Seigneur vint sur David à partir de ce jour-là. Je ne sais pas pour vous tous, mais je menais une vie assez ordinaire avant de rejoindre l'Église de Dieu. J'avais une femme magnifique. Elle l'est toujours. Nous élevions quatre belles filles. Au cas où elles nous écouteraient, elles le sont toujours. Mais alors, Dieu a décidé qu'il était temps de nous appeler, de nulle part. Et je suis certain qu'il en va de même pour chacun d'entre vous. De nulle part, Dieu nous a appelés, chacun d'entre nous. Car nous voyons, frères, que ce ne sont pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles, qui sont appelés. David a été un pour être roi. Dieu nous a donné son esprit, à nous aussi. Nous serons faits rois et prêtres, et nous régnerons sur la terre. C'est maintenant. Jeunes gens, vous avez des rêves et des aspirations. Moi aussi, j'en avais. Vous voulez réussir? Pas de problème. Être reconnu? Il n'y a rien de mal à cela. Réaliser des exploits? Allez-y. Je n'étais pas différent. À votre âge, cependant, vous avez une longueur d'avance sur moi. Vous êtes bien plus avancé que je ne l'étais à votre âge. On vous a donné la connaissance. Vous recevez une connaissance qu'il m'a fallu des décennies pour enfin découvrir ou qui m'a été révélée. Il n'y a rien de mal à rechercher une éducation, un emploi, un conjoint et une famille. Ce sont de grands rêves, de merveilleuses aspirations. Mais les rêves les plus importants, comme je l'ai dit plus tôt, les plus grandes aspirations que chacun de nous puisse poursuivre dans la vie sont celles que Dieu vous donne. Vous qui êtes nouveau, membre potentiel, nouvellement baptisé, considérez que vous vous êtes fixé le bon objectif lorsque vous avez répondu à l'appel de Dieu à vous repentir et à vous faire baptiser, à changer. Il veut que vous appreniez. Il veut que vous restiez en bonne santé. Il veut que vous ayez de l'énergie, que vous soyez motivé et débrouillard, flexible, et que vous restiez proche de lui. Pourquoi voudrait-il cela ? Parce qu'il prépare des gens à régner dans un royaume et à gouverner d'autres personnes, qui auront la chance de faire la même chose que ce que nous faisons en ce moment. C'est notre rêve. Ce sera leur rêve. Ou plutôt, c'est le rêve que Dieu nous a donné. Et ce rêve, c'est la vie éternelle. Par conséquent, nous devons faire ce qu'ont fait Joseph, Josué, David et les centaines de personnes dont nous parlerons aujourd'hui. Genèse chapitre 37, revenons-y. Dieu ne demande pas à un homme ou à une femme de persévérer sans lui donner d'abord quelque chose qui vaille la peine d'être enduré. C'est la première leçon. Mais une fois que Dieu a donné l'objectif, il ne l'accomplit pas immédiatement. Je ne l'ai jamais vu. Ni dans le passé, ni dans le présent, et j'en suis assez sûr, ni dans le futur. Donc, numéro 2, Dieu utilise le temps pour développer notre capacité à persévérer. Le temps est l'épreuve ultime de l'endurance. Savez-vous ce que Joseph, Josué et David ont fait après que Dieu leur eut donné leurs objectifs? Eh bien, Genèse chapitre 37, verset 2. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères, gardant les brebis. C'est ce qu'il faisait de son temps. Après ses rêves, verset 12. Et ses frères allèrent faire paître le troupeau de leur père à Sichem. Et Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem ? Viens, je t'enverrai vers eux. » Et il lui répondit, « Maître, voici. » Verset 14. Souvenez-vous qu'il s'agit de Joseph, qui avait fait un grand rêve où tous les membres de sa famille allaient se prosterner devant lui. Et il lui dit, « C'est Jacob ou Israël qui s'adresse à Joseph. Va. » Je t'en prie, voir si tout va bien pour tes frères et si tout va bien pour les troupeaux, et reviens m'en faire part. Joseph n'avait que 17 ans lorsque Dieu lui a donné ses grands rêves, et immédiatement, dès le départ, il est devenu un garçon de course. C'est tout. Et cela, mes amis, cette première mission qu'il a reçue, ce premier emploi de messager pour Jacob afin d'aller voir ses frères, nous savons que cela ne s'est pas bien passé pour Joseph. Combien d'entre vous ont eu un emploi ou un premier emploi qui ne s'est pas bien passé ? Eh bien, cela s'est passé bien pire. Nous pourrions revenir sur cette histoire, mais sautons directement au chapitre 41. Chapitre 41. Genèse 41. Verset 46. Nous parlons du temps. Dieu l'utilise pour développer notre capacité à persévérer. Genèse 41. 46. Joseph se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, alors qu'il avait 30 ans. Mesdames et messieurs, Joseph a enduré 13 ans. Dieu utilise le temps pour tester notre endurance. Dans le cas de Joseph, 13 longues années, si l'on repense à la définition, difficile et éprouvante s'était écoulée. Pas seulement 13 jours. Ce serait formidable si nous pouvions atteindre nos objectifs en 13 jours. Pas 13 mois, mais 13 ans. 13 années remplies d'épreuves, de luttes, de difficultés, de revers et de pressions. Qu'en dites-vous ? Pour un rêve, pour poursuivre un rêve. Tout objectif qui vaut la peine d'être atteint, tout rêve qui vaut la peine d'être réalisé, qu'il s'agisse d'un rêve de Dieu ou d'un rêve personnel conforme aux lois de Dieu, tout ce qui vaut la peine d'être conquis prend du temps. Le temps met à l'épreuve notre capacité à endurer. Dieu voulait voir comment Joseph endurerait la trahison, l'esclavage, les fausses accusations, l'emprisonnement et l'oubli. Mais il voulait aussi voir comment il endurerait la prospérité, les bons moments. Continuons. Mais attendez, était-ce seulement 13 ans? 47. Et pendant les 7 années d'abondance, la terre produisit en abondance. Verset 53. Les 7 années d'abondance prirent fin, et les 7 années de disette ou de famine commencèrent. Tout comme Joseph l'avait dit, et la disette s'étendit sur toutes les terres, mais en Égypte, il y avait du pain. Et lorsque tout le pays d'Égypte fut affamé, le pain vint à manquer, et le peuple cria vers Pharaon pour du pain. Et Pharaon dit, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il dit. » Et Joseph ouvrit tous les magasins et vendit aux Égyptiens, et la famine s'aggrava. Verset 57. Et tous les pays vinrent en Égypte vers Joseph. Mais le rêve ne s'est pas achevé, ou plutôt, le rêve ne s'est pas réalisé, lorsqu'il fut tiré de prison et que l'anneau de Pharaon fut placé à son doigt. Il était vêtu d'un manteau et chevauché ce qui serait la deuxième bête. Ici, aux États-Unis, le véhicule du président s'appelle la bête. Celui du vice-président est l'ancien modèle. Il hérite de la bête d'occasion. Joseph chevauchait dans le deuxième char. Personne dans la maison du Pharaon ni dans tout le pays d'Égypte ne pouvait rien faire sans l'accord de Joseph. C'était au bout de 13 ans. Mais le rêve de Dieu ne s'était pas réalisé. Imaginez-vous, 7 ans, vice-président d'une entreprise, dirigeant votre propre entreprise, le succès, l'argent. Dieu veut voir si vous persévérez afin de poursuivre, de continuer à poursuivre son rêve. Genèse 42. Passons au chapitre suivant. Verset 1. Et maintenant, quand Jacob vit qu'il y avait du blé en Égypte, Jacob dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ? Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ? Cessez de vous regarder les uns les autres. Nous avons un problème ici. » Et il dit, « Voici. J'ai entendu dire qu'il y a du blé en Égypte. Descendez là-bas et achetez-en là-bas, afin que nous vivions et ne mourions pas. » C'était une situation de vie ou de mort à laquelle la famille était confrontée. Et les 10 frères de Joseph, sans Benjamin, descendirent acheter du blé en Égypte, et les fils d'Israël vinrent acheter du blé, car la famine sévissait dans le pays de Canaan. Et Joseph, verset 6. Était gouverneur du pays, et les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, le visage contre terre. Il fallut 20 ans. Quel temps il a fallu pour réaliser le rêve que Dieu lui avait donné? Les rêves se réalisent enfin. Je suis dans l'église de Dieu depuis plus d'une décennie. Pas deux. De quoi pourrais-je bien me plaindre? Je trouve ridicule chaque fois que quelqu'un part parce qu'une date est arrivée et passée. Cela prend trop de temps. Ils partent parce que le Seigneur retarde sa venue. Si je peux le dire sans détour, à la lumière de l'histoire de Joseph, laissez-moi tranquille. Joseph a bien utilisé ce temps. Tout ce temps. Comme il est précieux. Je sais que certains d'entre vous, alors que nous entrions dans la période d'introspection précédant la Pâque, espérer que nous aurions un peu plus de temps afin que nous puissions faire les derniers ajustements nécessaires pour être qualifiés et saisir le rêve, le prix, la récompense. Allons-nous utiliser le temps qui reste de la même manière que Joseph l'a fait? Revenons à Josué, Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14. Josué n'a pas eu à persévérer comme Joseph. Il s'est lancé directement. Désordre de marche à la marche, n'est-ce pas? Vraiment. Je veux que vous réfléchissiez, Josué, et j'y ai fait allusion plus tôt, avait déjà un impressionnant parcours de 40 ans de persévérance. Et on oublie souvent qu'il a commencé comme tous les autres Israélites. C'était un esclave égyptien qui a affronté Pharaon et son armée aux côtés de Moïse. Il a traversé la mer Rouge. Il a erré pendant 40 ans. Au verset 30, Nombre 14. Vous n'entrerez certainement pas dans le pays où j'ai juré de vous faire habiter, à l'exception de Caleb et de Josué. Et puis tous ceux qui avaient moins de 20 ans. Josué a erré pendant 40 ans pour entrer dans la terre promise. Joseph n'a dû attendre que 20 ans pour voir le rêve de Dieu se réaliser dans sa vie. C'était le double du nombre d'années pendant lesquelles Josué a dû persévérer. Il a enduré tandis que les autres se plaignaient. Il a enduré tandis que les autres se rebellaient, abandonnaient et mouraient. Le temps a révélé qui persévérerait, et savez-vous combien? 2. Caleb et Josué. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Ce qui distingue les nombreux des élus, c'est la persévérance. Nous l'avons vu tout au long des années. Ceux qui ne persévèrent pas sont ceux qui se plaignent beaucoup. Je crois que nous avons entendu quelque chose à ce sujet dans le petit sermon. Il a appelé cela « murmurer ». Je l'ai entendu comme se plaindre. C'est du pareil au même, comme on dirait. Ceux qui ne persévèrent pas sont ceux qui se rebellent, qui abandonnent ou qui meurent. 1 Samuel 17. Ce sont Joseph et Josué. Revenons à David. Nous en avons couvert 3, il nous en reste des centaines d'autres. Et David, Dieu a-t-il continué à utiliser le temps pour tester l'endurance de David, comme il l'avait fait avec Joseph et Josué? 1 Samuel 17, verset 4. Et il sortit du camp des Philistins un champion nommé Goliath de Gath, dont la taille était de 6 coudées et un empan. C'est grand. C'est un euphémisme de ma part. Je vois ma femme rire à l'arrière, un peu plus fort que je ne le souhaiterais, mais ce n'est pas grave. Et où était donc le roi Ouin pendant que ce géant défiait, pendant 40 jours, toute l'armée israélite? Les versets 14 et 15 nous indiquent qu'il était retourné à Bethléem pour garder les brebis de son père. Un roi Ouin, gardant des brebis, un simple messager, un serviteur de Moïse pendant 40 ans. La première chose que David fit en tant que nouveau roi Ouin d'Israël fut de retourner garder les moutons. Pourquoi? Dieu n'avait pas besoin de tester sa force. Il la possédait déjà. Nous le savons. Il pouvait affronter les animaux sauvages. Il ne s'agissait pas de tester son courage. Il ne s'agissait pas de tester sa motivation. David était très motivé. David a également fait preuve d'ingéniosité. David allait apprendre, et quand on pense au psaume et à tout ce qu'il a écrit, on voit qu'il a compris que sans Dieu, il ne pourrait jamais persévérer, sans ce rêve, sans le temps. On pourrait donc penser qu'après avoir vaincu celui qui était sans doute le plus grand ennemi d'Israël, Goliath, David, alors qu'il avait l'âge mûr de 18 ou 19 ans, ou environ 20 ans, Dieu le jugerait prêt et orchestrerait les choses de manière à ce qu'il puisse monter sur le trône, n'est-ce pas? À la place du méchant Saül, faux. Qu'est-ce que Dieu a donné à David? Du temps. D'abord, il a dû apprendre à persévérer face à la haine du roi Saül tout en le servant. Il a dû jouer de la harpe pour l'homme qui voulait le tuer afin d'éloigner le démon, l'esprit maléfique. Nous nous plaignons, frères, lorsque nous devons servir notre famille, nos amis, nos patrons, nos collègues de travail ou des enseignants qui détestent notre mode de vie. Comparé à David, ce n'est rien, frères. Si l'on remet tout cela en perspective, comme nous l'avons entendu plus tôt, dans le message précédent, il suffit d'adopter une attitude de gratitude. Bien qu'il le servît fidèlement, Saül a tenté à plusieurs reprises de tuer David. David a-t-il abandonné, renoncé ou cédé? Non. David, de la vingtaine jusqu'à environ 30 ans, a passé une dizaine d'années à fuir. Le jeune David aurait pu prendre les choses en main à deux reprises pour mettre fin à cette souffrance injuste en un instant. Je vais démissionner, mon patron est injuste avec moi. Bien sûr, Dieu va ouvrir des portes. Il le sait. Mais considérez votre situation sous l'angle de la persévérance et du développement de cette capacité. Et peut-être avez-vous juste besoin d'un peu plus de temps pour apprendre la leçon de la persévérance avant que Dieu n'ouvre une autre porte et qu'un autre emploi ne se présente. Ou si vous êtes jeune dans l'église et que vous sortez avec quelqu'un, et que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez parce que vous voulez vous engager dans une relation, peut-être même faire la cour, et vous marier. Peut-être est-ce le temps que Dieu veut que vous ayez, pas encore de fiancé, afin que vous puissiez apprendre à persévérer. Exemple après exemple, pensez à la situation que vous traversez en ce moment. Le défi, est-il aussi grave que d'être poursuivi par un roi ou un président qui veut vous tuer? Non. Est-ce grave? Oui, j'en suis certain. Mais nous ne devons pas abandonner. Nous ne devons pas chercher des moyens d'y échapper. Nous devons chercher des moyens de le surmonter. David a décidé de ne pas mettre fin à son épreuve en tuant Saül. Il a choisi d'endurer. 2 Samuel 2, verset 4. Et parce qu'il a utilisé ce temps à bon escient, il est dit ici, les hommes de Juda vinrent, et là, ils oignirent David droit sur la maison de Juda. Cela représente environ 13 ans, à peu près la même période que Joseph, de l'âge de 17, 18, 19 ans jusqu'à 30 ans, peut-être un peu moins. Il a finalement pris le trône et est devenu roi. Oh, non, pas encore. Le rêve de Dieu ne s'était pas réalisé. Ce n'était que Juda. Dieu l'a ou un roi d'Israël. 2 Samuel 5, verset 3. Tous les anciens d'Israël vinrent donc vers le roi, c'est-à-dire David, à Hébron, et le roi David conclut une alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel, et ils oignirent David droit sur Israël. David avait 30 ans lorsqu'il commença à régner, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda pendant 7 ans. Intéressant. Il a été roi de Juda pendant 7 ans. Je trouve certains de ces chiffres fascinants dans la Bible. Joseph a régné sur l'Égypte pendant 7 ans avant que Dieu ne réalise son rêve de voir ses frères venir l'honorer comme ils l'ont fait. Et à Jérusalem, il a régné 33 ans sur tout Israël et Juda. Finalement, le rêve s'est réalisé. À l'âge de 30 ans, David est enfin devenu roi. La fin, le but, non. Rappelez-vous, il y a plus d'une décennie, à ce moment précis, c'est là que Dieu a oint David. Donc, deuxième point, Dieu utilise le temps pour développer notre capacité à persévérer. Pourquoi Dieu mettrait-il en garde contre ceux qui disent que mon Seigneur tarde à venir? Pourquoi Dieu lance-t-il cet avertissement, mon frère? Passons à autre chose. Nous savons que le temps met notre endurance à l'épreuve. Nous savons qu'Israël s'est plaint, a cédé, a abandonné et a succombé dans le désert. Voici la question qui se pose à nous. En sera-t-il de même pour nous? Le temps nous vaincra-t-il, ou traverserons-nous le temps? Et tout ce que Dieu nous réserve pour atteindre le but? Voici une troisième leçon sur la persévérance, et c'est la plus grande, je pense, la plus importante. Genèse 39. Genèse 39, alors que nous continuons notre chemin ici. Verset 1. Joseph fut emmené en Égypte, chez Potiphar, Officier du Pharaon et chef des gardes, nous connaissons ces versets. Et les Ishmaélites l'y amenèrent. Verset 2. Et le Seigneur était avec Joseph. Verset 19. Et il arriva, lorsque son maître entendit les paroles de sa femme, qui accusait faussement Joseph de l'avoir agressé sexuellement, en disant, « C'est ainsi que ton serviteur m'a traité. » Potiphar était en colère. Sa colère s'enflamma, dit-on. Verset 20. Et il prit Joseph et le mit en prison. Il n'est pas dit que Joseph se soit disputé avec Potiphar. Il aurait pu défendre sa cause, mais cela aurait été. Je ne vois pas Joseph se débattre et crier tout au long du trajet jusqu'à la prison. Il aurait probablement giflé et frappé s'il avait ouvert la bouche contre Potiphar. Il n'a donc même pas pu faire valoir sa cause. Voici ce que dit le verset 21. Presque la même chose qu'au verset 2. Mais le Seigneur était avec Joseph. Verset 23. Le chef de la prison ne s'occupait de rien de ce qui était sous sa responsabilité, car le Seigneur était avec lui. Il était avec Joseph. Ce sont des phrases que vous voudrez peut-être souligner dans votre Bible lorsqu'il est question de persévérance. Le Seigneur était avec Joseph. Verset 2. Mais le Seigneur était avec Joseph. Verset 21. Car le Seigneur était avec Joseph. Verset 23. Dieu a veillé à ce que cette phrase soit répétée. Non seulement Dieu l'a fait intentionnellement, mais il l'a utilisée dans deux situations distinctes. Et Dieu s'est assuré que nous sachions qu'il était avec Joseph dans les bons comme dans les mauvais moments. Troisièmement, nous avons peut-être l'objectif de Dieu et le temps nécessaire pour y parvenir, mais la troisième leçon est que nous avons besoin de Dieu pour persévérer dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous n'avons pas seulement besoin de son rêve. Nous n'avons pas seulement besoin de temps. Nous avons besoin de lui. Et j'aime bien le rapport que l'on trouve ici. Je recherche toujours des proportions peut-être subtiles. Dans les bons moments, Dieu a dit, et le Seigneur était avec Joseph. Dans les mauvais moments, il l'a dit deux fois. Parfois, nous avons besoin de savoir que nous savons davantage dans les mauvais moments que dans les bons. Nous avons certes besoin de savoir que Dieu est avec nous dans les bons moments, mais parfois, c'est presque comme si nous avions besoin de deux doses, ou d'une double dose, pour savoir que Dieu est avec nous dans les moments difficiles. Joseph a dû affronter des années de moments difficiles injustement, mais Dieu était avec lui. Remarquez que c'est subtil. Joseph s'en est bien sorti et a pu endurer. Il est dit, car, frère, la raison pour laquelle nous pouvons persévérer, c'est parce que, cette dernière phrase, le Seigneur est avec nous. Josué. Passons à Josué. Josué, encore une fois, nous restons tout près. Josué 1. Or, après la mort de Moïse, nous avons lu cela tout à l'heure. Verset 1. Il arriva que Dieu dit tout ce qu'il avait à dire concernant sa mission, sa tâche, sa charge. Et voici au verset 5. C'est un peu différent de Genèse, mais pas trop. Nul ne pourra te résister tous les jours de ta vie. Nous avons lu cela. Comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te décevrai pas, ajoute-t-il, et je ne t'abandonnerai pas. Non seulement nous avons besoin que Dieu soit avec nous, mais la raison pour laquelle nous avons besoin de Dieu à nos côtés, c'est parce qu'il ne nous décevra pas. Petit rire, mais si nous échouons, il ne nous abandonnera pas. Dieu voulait que Josué comprenne cela à propos de sa propre vie. Pas à propos de ce que Dieu faisait ou avait fait avec Moïse, mais Dieu avait besoin de dire à Josué, d'homme à homme, si je peux m'exprimer ainsi, je ne te décevrai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Tu seras confronté à des difficultés, dit-il. Nul ne pourra te résister tous les jours de ta vie. Maintenant, frères, prenez note de ceci. Si Dieu dit que nous sommes appelés à persévérer chaque jour, contre vent et marée, vous pouvez être sûr que Dieu a pris un engagement. Il s'est engagé à être avec nous à chaque pas du chemin, chaque jour. Si les défis qu'il nous demande de relever sont quotidiens, alors Dieu doit être avec nous, ne pas nous décevoir ni nous abandonner un seul de ces jours. Joseph et Josué ont tous deux appris et compris qu'ils avaient besoin de Dieu pour persévérer tant dans la prospérité que dans la souffrance. Voici ce que Christ a dit à trois reprises alors que nous réfléchissons au jour des pains sans levain et à ce qui s'est passé. Christ a dit, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. » Il a dit, « Je ne peux rien faire de moi-même, et je ne fais rien de moi-même. » Je veux en venir à quelque chose, mes frères. Rien n'inclurait persévérer jusqu'à la fin. Christ a dit, le Fils ne peut persévérer de lui-même. Je ne peux persévérer de moi-même. Je ne peux persévérer de moi-même, et je ne peux pas persévérer par moi-même. Sa dépendance totale envers le Père s'étendait à toute chose, mais nous menons à quelque chose. C'est instructif pour nous. Et David, Psaume 37. Allons-y rapidement. Psaume 37. Verset 1. Nous savons que c'est un psaume de David. Verset 23. Les pas de l'homme juste sont dirigés par le Seigneur, et il prend plaisir en sa voie. S'il tombe, il ne sera pas complètement abattu, car le Seigneur le soutient de sa main. J'ai été jeune, dit David, maintenant je suis vieux. Vous, les cheveux blancs parmi nous, vous avez été jeune autrefois, maintenant vous êtes vieux. Vous pouvez vous identifier à cela. Tout à fait. Pourtant, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Vous voulez savoir comment apprendre à persévérer, jeunes gens, personnes d'âge mûr? Parlez-en aux aînés. Ils s'y connaissent un peu en matière de persévérance. Ils pourraient nous en apprendre une ou deux sur la façon de persévérer dans la vie. Laissez-les vous donner des exemples des épreuves qu'ils ont surmontées au cours de leur parcours, jusqu'à ce moment précis où ils sont assis devant vous, à parler, tandis que vous les écoutez. Ils auraient beaucoup à nous enseigner. Ma belle-mère, mon beau-père, mon père, ma mère, même peuvent nous enseigner, même si certains ne fréquentent peut-être pas l'Église. Les personnes âgées peuvent nous en dire un peu plus sur la persévérance. Une autre génération, mes parents. J'ai été jeune et maintenant je suis vieux, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier du pain. Car le Seigneur, verset 28, aime la justice et n'abandonne pas ses saints. Ils sont préservés. Il suffit de changer quelques mots, quelques lettres, et vous obtenez persévérer. Ceux qui persévèrent sont préservés pour toujours, mais la postérité des méchants, la postérité de ceux qui ne persévèrent pas, sera exterminée. Christ l'a clairement dit, ceux qui endurent. Cela comporte évidemment un élément prophétique dans le contexte, mais cela devrait nous interpeller haut et fort, frères, personnellement. La vie extraordinaire de David a exigé de l'endurance dès son plus jeune âge, et ce psaume reflète sa vie. Comme je l'ai dit, trois de moins, des centaines à venir, et nous manquons de temps. Alors, est-ce que je change de stratégie ou est-ce que je continue d'avancer pour venir à bout de ces centaines? Allons de l'avant. Je vais persévérer. Je vais m'en sortir. Hébreux, chapitre 11. J'ai les notes de synthèse, non pas sur le panthéon de la foi, mais sur le panthéon de la persévérance. Si jamais vous avez des doutes ou des inquiétudes, ou si vous souhaitez réfléchir ou méditer sur la persévérance, rendez-vous au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Verset 1. Nous voyons ici, or, la foi est la substance des choses qu'on espère, non pas de celles qu'on a obtenues. C'est la preuve des choses qu'on ne voit pas. Réfléchissez-y. La foi, par nature, va de pair avec la persévérance. Car il n'y a plus besoin de persévérer une fois l'objectif atteint. Plus besoin de persévérer. Mais tant que vous n'avez pas cette promesse, vous devez avoir la foi, et cette foi doit persévérer, et vous devez persévérer avec foi. Il y a un aspect de notre cheminement chrétien, de nos vies, qui ne nécessite pas de persévérance, et ce chapitre le prouve. Abel a présenté une offrande plus excellente que celle de Caïn. Mais combien d'offrandes excellentes pensez-vous qu'il ait présentées avant de mourir? Nous ne pouvons pas le dire avec certitude. En a-t-il présenté une seule, ou a-t-il persévéré en tant qu'individu qui offrait toujours à Dieu, à chaque fois, des offrandes excellentes, des offrandes encore plus excellentes? Enoch a marché avec Dieu. Un jour, était-ce juste un jour, ou était-ce jusqu'à ce qu'il soit enlevé, puis qu'il meure lui-même finalement? J'oserais deviner qu'il a persévéré jusqu'à la fin par ce qu'il figure dans ce livre. Le livre, je pense, le chapitre de la persévérance. Il a marché avec Dieu. Il a persévéré en marchant avec Dieu. Abel a persévéré en offrant des offrandes, d'excellentes offrandes, à Dieu. Noé a passé un siècle à construire une arche pour quelque chose qu'il ne comprenait pas. Imagine s'il s'était lassé de la construire et avait abandonné. Ne le faites pas, car il ne l'a pas fait. Abraham, Isaac et Jacob, versets 8 à 21, tous sont morts dans la foi, sans avoir reçu la promesse d'une ville, bâtie par Dieu. Frères et sœurs, qu'attendons-nous? Ils ont persévéré avec ardeur parce que Dieu ne voulait pas qu'ils restent dans quoi que ce soit d'autre, car il leur bâtissait une ville. Et comment nous nous plaignons? Comment pouvons-nous murmurer, si vous voulez? Moïse, Gédéon, Barak, Samson, Jephté, Sarah, Réhab, et les femmes, oui, mesdames, les femmes, qui incarne la persévérance de la manière la plus remarquable. Ces femmes dont les enfants ont été ramenés à la vie ont toutes persévéré jusqu'à quel point? Jusqu'à la fin. Ces hommes et ces femmes ont atteint les plus hauts sommets de la réussite grâce à la foi. À cela s'ajoutent d'innombrables autres qui ont été torturés, raillés, flagellés, lapidés, sciés en deux, tentés, tués par l'épée, errant, démuni, affligé et tourmenté. J'espère avoir rendu justice aux centaines d'hommes et de femmes dont j'avais promis de parler dans ce message. Tous sont des exemples profondément puissants de persévérance. Dieu dit, et pas seulement l'apôtre Paul, que le monde n'est pas digne d'eux. Qu'est-ce qui les a distingués en fin de compte? C'était plus que des hommes et des femmes de foi. Ouah. Petit rire, c'était des hommes et des femmes de foi, mais c'était des hommes et des femmes de persévérance. Voici une étude pour vous. Étudiez leur vie à travers le prisme de la persévérance et laissez ce que vous apprenez vous inspirer. Avez-vous déjà remarqué ce qui suit au chapitre 12? Tournez simplement la page. Dieu leur a donné à tous un rêve. Dieu a utilisé le temps pour les former et tester leur endurance. Et Dieu était avec eux à chaque étape du chemin. Hébreux 12, verset 1, c'est pourquoi nous pouvons lire, c'est pourquoi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Vous oseriez deviner que ce sont ces hommes et ces femmes qui viennent d'être énumérés au chapitre 11. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et croirons avec persévérance. Savez-vous quel est ce mot? Upomone. C'est le verbe qui est placé devant nous. Fixons les yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui, pour la joie qui lui était réservée, a enduré, hupomano, la croix. Le mot que nous avons examiné, méprisant la honte, il est assis à la droite du trône de Dieu. Voilà, frères, des centaines d'exemples de véritable endurance chrétienne. Alors que nous approchons de la fin, il y a deux raisons pour lesquelles tout cela s'est produit et peut se produire. Maintenant, en plein milieu des jours des pains sans levain, considérez le type d'endurance le plus extrême jamais manifesté. J'ai dit que je construisais quelque chose. Matthieu 27. Allons-y rapidement. Matthieu 27. Souvenez-vous de ce que j'ai dit. Dieu doit nous donner le rêve, le but, la mission, la récompense. Dieu nous donne le temps de développer notre capacité à apprendre la persévérance. Et nous avons besoin de Dieu pour persévérer. Matthieu 27 verset 33, « Et quand ils arrivèrent à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne, verset 35, et ils le crucifièrent. » Verset 46, vers la neuvième heure, « Je crois que cela correspondait à environ 3 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani ?» Ce qui signifie, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pendant quelques instants seulement de son existence humaine, Christ a persévéré face à la plus grande difficulté et aux épreuves les plus dures que quiconque parmi nous, dans cette grande vocation qui est la nôtre, pourrait rencontrer, et ce n'était pas la crucifixion en soi. C'était le fait d'endurer, de persévérer face à cette crucifixion injuste sans Dieu. Inimaginable. Et nous savons, par la Pâque que nous célébrons, que nous en étions la cause. Nous avons tous probablement déjà pensé ou nous nous sommes déjà demandé si Dieu était avec nous. Frères et sœurs, chers collègues ministres, épouses des ministres, souvenez-vous de ceci, Christ a prononcé ces 4 mots afin que nous n'ayons jamais compris que cela s'applique à nous ne serait-ce que de penser que ces 9 mots en anglais s'appliquent à nous. Ou que les 9 mots en espagnol s'appliquent à vous, ou les 9 mots en néerlandais, ou les 9 mots en afrikaans s'appliquent à vous. Ou que les 7 mots en français ne s'appliquent jamais à vous. Satan veut que nous abandonnions, que nous cédions et que nous renoncions en nous amenant à croire le contraire de ce que Christ nous a assuré. Dieu a abandonné son Fils afin que nous ne soyons jamais abandonnés. Christ l'a confirmé par son corps. Pour son corps. L'Église de Dieu. Et la deuxième raison pour laquelle la loi de la persévérance est si essentielle à notre marche chrétienne, et cela m'a vraiment bouleversé, mes frères. Je discutais avec un pasteur en préparation de ce message. J'ai dit quelque chose, et nous nous demandions si cela figurait quelque part dans la Bible. Romains, chapitre 15, notre dernier verset. Notre dernier verset. Romains 15, verset 4. Car tout ce qui a été écrit autrefois, nous venons d'en aborder une grande partie, frères et sœurs, petit rire, a été écrit pour notre instruction. Oh, et j'espère que nous avons beaucoup appris sur la persévérance aujourd'hui, que par la patience. Quoi? C'est hupomeno, le verbe d'action. Afin que, par l'endurance et la consolation des Écritures, nous ayons de l'espérance. Verset 5. Or, le Dieu de la patience. Arrêtez-vous là, mes frères. Le Dieu de la patience. C'est la forme nominale du mot dans Matthieu 24. Mes frères, nous savons que Dieu est amour. Cela signifie que Dieu est endurance. Il est persévérance. Le Dieu de la persévérance. Le Dieu d'amour. Hupomeno est l'action. Hupomon est le caractère qui en résulte. Nous devenons joyeux et endurants, tout comme Dieu. Plus nous persévérons, plus nous prenons le caractère de Dieu. Alors, vous, les jeunes qui ressentez de la pression à l'école ou qui essayez de trouver votre propre identité, faites vos propres choix. Quand vous êtes le seul à l'école à ne pas tricher, à ne pas copier ou à ne pas suivre ce que font tous les autres, restez fort. Comme le jeune David qui a tenu tête à Goliath alors que personne d'autre ne le faisait. Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Lorsque vos amis commencent à changer, à s'éloigner ou à vous exclure parce que vous ne vous intégrez plus, parce que vous suivez votre propre Dieu, le Dieu qui se trouve être celui de vos parents, tenez bon et ne faites pas de compromis. Tout comme Joseph, qui a été trahi par ses propres frères et oublié par ceux qu'il avait aidés en prison, Dieu était avec lui et il est avec toi. Quand tout le monde publie, regarde ou écoute des choses que tu sais que tu ne devrais pas, fais un autre choix. Tout comme Joseph, qui a refusé de pécher avec une femme alors que personne ne le regardait et que personne ne l'aurait probablement jamais su, Dieu le sait parce qu'il est avec toi. Vous qui cherchez votre voie dans la vie et faites vos premiers pas vers l'indépendance, vous grandissez, vous vieillissez, vous apprenez à vous débrouiller seul. Lorsque vous choisissez une université, un métier ou un emploi qui pourrait limiter vos revenus ou vos opportunités à cause de la voie de Dieu, tenez-vous-en à cette décision. Comme Josué qui a suivi le commandement de Dieu sans dévier, lorsque vos collègues ou camarades de classe vous poussent à assouplir vos principes, vous devez tenir bon, comme Caleb et Josué l'ont fait pendant 40 ans alors que personne d'autre ne le faisait. Lorsque nous essayons de prendre des habitudes comme l'étude de la Bible et la prière, mais que nos téléphones, nos jeux et le bruit constant nous tirent dans une autre direction, nous devons persévérer comme David qui restait fidèle partout et en toute situation, y compris dans les grottes. Lorsque votre carrière commence à décoller mais entre en concurrence avec le temps que vous consacrez à Dieu, vous devez choisir ce qui passe en premier. Souvenez-vous du rêve que Dieu a pour votre vie, comme Joseph, comme David, comme Josué, comme tous ces grands personnages. Lorsque vous êtes ignoré, sous-payé ou traité injustement au travail, persévérez sans devenir amer, comme Joseph dans la fosse de la prison. Lorsque les autres avancent dans la vie, avec le mariage, le succès, la stabilité, et que votre situation n'a pas encore changé, ne perdez pas de vue votre objectif. Ils y parviendront peut-être, ou peut-être pas, mais ne perdez pas de vue votre objectif, tout comme David a attendu des années pour ce que Dieu avait promis. Frères et sœurs, le salut est la récompense ultime. La vie éternelle exige de la persévérance dans tous ces domaines et bien d'autres encore, jusqu'à la fin. Pendant les jours des pains sans levain, nous devons nous souvenir des paroles de l'apôtre Jacques. Vous pouvez noter ceci. Jacques 1 verset 12. Heureux l'homme qui persévère, non seulement face à la tentation, mais heureux l'homme et la femme qui restent fidèles à Dieu dans les bons et les mauvais moments jusqu'à la fin. Car lorsqu'il est éprouvé dans la persévérance dans tous les domaines de notre marche chrétienne, lorsqu'il est éprouvé dans tous ces domaines concernant sa persévérance, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise.